gambader toute la journée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce freestyle intempestif, je reçois Lola Cross, journaliste indépendante, qui a passé 6 semaines en résidence avec Radio Larzac dans le cadre du projet Journaliste en résidence de la DRAC Occitanie. L'objectif était de dresser un état des lieux sur l'eau comme ressource et comme bien commun à Millau et dans le sud d'Aveyron, et enquêter sur les usages et le partage de l'eau à l'heure des changements climatiques dont les effets impactent aussi nos territoires. En attendant la série d'émissions que Lola est en train de finaliser et qui sera diffusée bientôt sur nos ondes et en podcast sur Radio Larzac, nous faisons le bilan de cette résidence et de ses enjeux avec Lola.
Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les gorges du Tarn.
Bonjour Lola.
Bonjour Sophia.
Donc tu es journaliste indépendante, tu as passé 6 semaines entre mars et juin 2025 en résidence sur le territoire de Millau et du sud d'Aveyron pour faire une enquête sur les enjeux liés à l'eau. Tout d'abord, comment tu as vécu cette expérience ?
Alors je suis encore en plein puisque je suis actuellement dans ma dernière semaine de résidence, donc là c'est un peu le moment où j'ai tous les rushs à traiter et puis où chaque nouveau rendez-vous m'amène sur des nouvelles pistes, donc là il va falloir trier tout ça, mais ça a été une belle expérience de pouvoir prendre du temps de cheminer, d'être sur le territoire, d'être visible et d'être alpagué par des interlocuteurs, d'avoir cette relation là au territoire. C'était une super belle expérience au-delà du sujet qui mêle tellement d'enjeux. Voilà, j'ai beaucoup appris aussi.
Effectivement, tu nous disais au début que prendre le temps pour s'immerger, pour rester dans cette métaphore aquatique, dans un sujet et l'explorer sur le temps long, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie d'un journaliste, une journaliste. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui à ce projet ?
Mais exactement ça, justement, on a l'habitude en tant que journaliste de picorer des sujets, alors... Peut-être que sur l'eau, j'aurais pu faire un sujet sur l'activité touristique, sur le stress hydrique à un moment de l'été. J'aurais pu venir comme ça spontanément sur des petits sujets, mais il nous est rarement donné l'occasion de travailler en longueur sur ces sujets-là. Et je crois particulièrement que celui de l'eau le mérite pour comprendre les enjeux, pour comprendre les nuances aussi. C'est pas noir et blanc, c'est comment on arrive à faire dialoguer des acteurs qui ont des intérêts très différents à partir de cette même ressource qui est partagée par tous les hommes et femmes du sud d'Aveyron. Donc c'est particulièrement ce temps long d'avoir... le luxe de pouvoir s'arrêter sur un sujet aussi longtemps qui m'a donné vraiment envie de ce projet-là.
Pour entrer dans le vif du sujet, on a vu une actualité liée à l'eau. Il y a eu par exemple le printemps au fil de l'eau, donc une programmation de spectacles vivants et d'autres événements culturels sur Millau, et des changements administratifs aussi dans la gestion de l'eau qui passe de la ville à la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Il y a aussi l'actualité des effets des changements climatiques. Est-ce que tu as perçu une urgence autour de l'eau, de cet enjeu parmi les habitants, les élus que tu as pu interroger ?
Alors on sent, l'urgence elle est là. Comme tu le dis, tous les cycles de conférences culturelles autour de l'eau à Millau en sont un bon exemple. Il y avait vraiment de l'eau partout cette année à Millau, dans toutes les expositions, tous les débats. Donc on sent qu'il y a l'urgence. Mais on était aussi, en tout cas au début de la résidence, sur un moment où il a beaucoup plu. Ça faisait des mois, ça fait 2 ans qu'il pleut beaucoup. Et donc il y avait à la fois, oui, on sentait l'urgence, mais bon, on voyait bien que quand même les niveaux d'eau, les nappes étaient pleines. Donc bon, ça rassure un peu, on laisse passer l'urgence au vu de cette pluviométrie. Et là, typiquement, sur la fin de la résidence, on est dans une période caniculaire. Et donc là, on voit tous les acteurs rentrer dans l'été avec quand même une inquiétude qui est vive. Ce qui est peut-être marquant aussi sur le territoire, c'est que on sait que la ressource est plutôt en quantité et en bonne qualité sur le territoire, mais on ne peut pas s'empêcher d'être solidaire de l'aval de nos rivières. Donc, qui est-ce qui vient après? Qui est-ce qui utilise après nous cette eau que l'on rejette dans les milieux? Donc, il y a quand même la solidarité qui est présente. On voit les situations de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, et on est obligé aussi d'avoir cette conscience de solidarité au-delà du département. En tout cas, oui, l'urgence, elle est là, mais dans les interviews, ce qui revient, c'est que tant qu'on ne revivra pas un été comme celui de 2022, eh bien, on ne sera peut-être pas pressé d'agir. En tout cas, on sent que les phénomènes comme l'été de 2022, cette sécheresse vraiment particulière, a laissé des traumatismes qui ont ouvert des discussions. Il faudrait presque un autre événement comme celui-là, un autre été comme celui-là, pour vraiment enclencher une mise en application de toutes les leçons apprises en 2022. Voilà, il y a un peu cette idée-là. On agit quand on est au pied du mur, quoi.
Et pour en venir justement à ce que tu disais par rapport à la qualité de l'eau, je sais que tu t'es concentré aussi sur l'état des lieux de la ressource de l'eau à Millau et aux alentours. Et tu me disais que les acteurs concernés affirment de manière plutôt uniforme que la qualité de l'eau des rivières en général dans ce territoire est plutôt bonne. À quoi est due cette bonne qualité ?
Alors, je pense qu'elle est plutôt bonne, mais ça reste relatif. Alors, on a plutôt tendance à dire, ici, ça va, on n'est pas les pires. Ce qui explique peut-être la bonne qualité, c'est que depuis des années, il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place. Les réseaux d'assainissement, les contrôles sont renforcés. Donc, on a plutôt tendu vers un cercle vertueux en termes de préservation de la ressource. Les eaux souterraines sont présentes en grande quantité sous l'Écosse, mais il y a quand même cette particularité des sols karstiques de tout l'Écosse, et notamment celui du Larzac, qui fait que s'ils permettent une grande infiltration de l'eau et que l'eau rentre très vite dans les réserves souterraines, cette eau, elle est aussi extrêmement exposée à des pollutions. Et c'est là qu'il y a quand même une vigilance, parce que la pollution, elle peut venir de plusieurs facteurs. Une exploitation agricole sur le Larzac qui fait des tas de fumier au fond du champ, potentiellement, quand ça s'infiltre, l'eau, qu'est-ce qui rentre par le karst, qu'est-ce qui finit dans les eaux souterraines à partir de ce tas de fumier? Ça pose question. L'autoroute A75 est une autre source de pollution possible. S'il y a un accident, que les bassins de l'autoroute ne suffisent pas à amortir la fuite d'un liquide, quel qu'il soit, et potentiellement de produits chimiques aussi, où va cette eau? Donc là, on a quand même beaucoup d'acteurs. Je pense d'abord au parc naturel régional des Grands Causses qui s'occupe de ces analyses, qui fait justement des traçages un peu toute l'année pour savoir si une goutte d'eau tombe à cet endroit du Larzac, où est-ce qu'elle finit, dans combien de temps elle sera dans les eaux souterraines avant de rejoindre la rivière. Donc tout le monde est plutôt bien organisé, tout le monde tend vers cette meilleure gestion pour toujours aller vers plus de qualité de l'eau, en tout cas maintenir la qualité de l'eau. Mais voilà, ces questions de pollution temporaire peuvent être problématiques aussi, parce que dans les analyses, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et donc parfois, on ne sait pas trop que chercher dans les analyses, donc c'est possible qu'il y ait des loupés parmi les analyses. En tout cas, en termes de seuil sanitaire, elle coche toutes les cases aujourd'hui.
Tu as parlé d'eau souterraine et je propose d'écouter à ce propos un extrait d'une des interviews que tu as menées pendant la résidence. C'était avec Laurent Danneville, qui est hydrogéologue et directeur adjoint du parc naturel régional des Grands Causses.
Le parc, on a la chance d'avoir des formations calcaires, karstiques, qui sont importantes. On a plus de 65% du territoire qui est composé de ces formations. Et ces formations, elles vont permettre justement de stocker cette eau qui va s'infiltrer via les précipitations et de la réguler. Alors il y a une partie qui va s'infiltrer rapidement, et arriver aux sources en quelques jours, ce qui va former des crues et des problèmes des fois de qualité d'eau. Et puis la composante plus lente, eh ben, elle va rester plusieurs mois, plusieurs années, enfin le temps moyen c'est 1 an et demi. Et ça va permettre justement d'alimenter ces sources qui sont souvent captées par les collectivités pour l'eau potable et alimenter nos rivières, hein, puisque plus de 90% de nos rivières, du débit de ces rivières, sont alimentées par les eaux souterraines. Alors on les a chiffrées grâce à nos études hydrogéologiques qu'on a menées depuis une vingtaine d'années à peu près 250 millions de mètres cubes sur le territoire du parc. 500 millions si on prend l'ensemble des grands causses, donc ça c'est pour une année moyenne. Et si on fait une comparaison par rapport à d'autres stockages d'eau superficielle, notamment dans des barrages, ceux du Livezou, qu'on connaît ici, si on prend Pont de Salars, Parelou et Villefranche de Panin, c'est 205 millions de mètres cubes quand c'est plein. Donc ça permet de comparer par rapport aux 500 millions avec des eaux souterraines, bon, ben, forcément qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment présentes et qui vont alimenter nos cours d'eau.
Quelles sont tes réactions à cet extrait? Est-ce que justement cette présence d'eau souterraine permet, dans des périodes plus de sécheresse, de ne pas manquer d'eau?
Pour l'instant, c'est ce que ça montre, en tout cas, que même en 2022, avant cet orage qui a un peu libéré le sud Aveyron, les réserves souterraines permettaient de continuer à alimenter les rivières. Mais je trouve intéressant d'avoir cette analyse parce qu'on ne se rend pas compte de l'eau qu'on a sous les pieds. On la voit en quantité, l'eau sur le territoire, mais de se rendre compte qu'on a plus que l'équivalent des lacs du Lévézou sous les pieds. Je trouvais l'image intéressante en fait à conserver. Pour l'instant, ces réserves-là, c'est plutôt une chance pour le territoire.
Et en ce qui concerne les perspectives et l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que tu as pu enquêter? Qu'est-ce que tu as pu comprendre de cette résidence? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont réfléchies, mises en place?
Là, alors, si je me base notamment sur un travail mené par le syndicat mixte Tarn-Amont, les acteurs du territoire, là, en sont plutôt à essayer de se rassembler et de discuter, de voir qui a besoin de quoi, à quel moment, et comment on peut arriver à concilier les usages dans une perspective où l'eau viendra à manquer dans les prochaines années. Donc là, le syndicat mixte est en train d'activer, de rassembler tout ce petit monde. Mais ça me fait penser en parallèle, c'était hier, 25 juin, le Haut Commissariat au Plan qui a mis sur la table du gouvernement une note indiquant que la transformation devait être radicale et dès aujourd'hui dans tous nos usages de l'eau. Donc là, on voit bien qu'il y a besoin de transformation radicale, mais chez tous les acteurs. Et donc, ça comprend l'agriculture, l'industrie, l'économie de loisirs, qui est quand même une carte de visite énorme pour le sud Aveyron. Donc comment on continue à concilier des enjeux économiques et environnementaux, la question se pose. Peut-être le plus marquant aujourd'hui, c'est le besoin d'expliquer. Moi, je crois que j'ai pas vu de solution révolutionnaire sur le territoire aujourd'hui pour se préparer à demain. Par contre, on voit que tous les acteurs ont besoin de réexpliquer, de faire de la pédagogie sur les cycles de l'eau, le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau. Comment individuellement on peut réduire notre consommation? Les chiffres en cela de la Comcom de Millau sont plutôt encourageants. On est sur une baisse de 6% de consommation d'eau individuellement entre 2023 et 2024. Il y a des conventions qui sont passées avec les industries pour accélérer les pré-traitements, enfin voilà, pour être sûr que l'eau que l'on renvoie dans les milieux soit de bonne qualité. Mais en termes de... Si aujourd'hui on doit répondre à une transformation radicale, j'ai pas l'impression qu'on ait les clés vraiment localement.
Et tu as parlé d'adaptation aussi avec une piscicultrice à Nantes. Et je propose donc d'écouter un extrait de son interview.
Je m'appelle Sophie, je suis piscicultrice à Nantes. Là, on est sur la pisciculture. On peut voir qu'on est bien encaissé entre plusieurs montagnes. On est dans la vallée du Larzac, avec une belle vue sur le Causse. D'un côté, on a les saumons de fontaine femelles, qui sont bien dans leur bassin. Et de l'autre côté, on a les grosses truites arc-en-ciel. Et plus bas, il y a le bassin de décantation qui sert à filtrer tous les rejets des poissons. Alors l'eau est prélevée directement à la source. On a un quota de prélèvement à la source du Durzon. Elle traverse la pisciculture en circuit ouvert et elle est rejetée à la fin au Durzon directement. Il y a le cours de la rivière et deux buses, une pour l'eau potable et une pour nous. On n'a jamais vu une pollution en... Alors nous, ça fait 20 ans qu'on est installés. Je crois que la pisciculture a 40 ans. On n'a jamais vu une seule pollution ou l'arrêt de la source en 40 ans. Si elle vient à manquer, c'est une question à se poser. Forcément que la consommation humaine sera prioritaire et préemptera sur nous. Il faudra se réinventer. Circuit fermé, c'est pas possible sur cette surface. C'est pas possible chez nous, un circuit fermé. En plus, c'est très consommateur en énergie. Enfin, tout ce qu'on veut pas. Donc là, on développe des pathologies en circuit fermé. Donc, traitement médicamenteux, c'est tout ce qu'on veut pas. Autant arrêter l'activité. Hein.
Est-ce que tu veux réagir à cet extrait ?
Oui, je trouve que c'est intéressant parce que bon, la source du Durzon, c'est plutôt une source qui est citée en exemple aussi à Nantes avec une quantité, une qualité d'eau qui est extrêmement linéaire, régulière en tout cas. C'est aussi une eau qui est plutôt fraîche, elle sort à moins de 13 degrés de la source et donc c'est idéal pour les truites typiquement dans le cas de Sophie. Voilà, là on est sur une activité où donc elle utilise cette eau qui sort de la source, ça passe dans tous ses bassins, dans chaque bassin de ses truites, il y a un petit bassin de décantation et puis l'eau est renvoyée dans la rivière, donc il n'y a pas une captation de la ressource dans ce cas-là, elle sert à l'activité économique mais il n'y a pas une captation et pourtant ce que dit Sophie c'est que aujourd'hui elle est largement en deçà de l'eau qu'elle a le droit d'utiliser. Elle utilise moins de la moitié du débit qu'elle pourrait utiliser. Donc ça lui a permis de passer l'été 2022, encore lui, d'avoir suffisamment d'eau, même au pire moment de la sécheresse. Il y avait suffisamment de débit pour qu'elle prenne sa petite part et qu'elle la rejette ensuite. Si des crises encore plus aiguës venaient à se produire, elle, c'est toute son activité qui est menacée parce que c'est ce qu'elle explique. Elle ne peut pas baisser en deçà de ce qu'elle utilise aujourd'hui, les quantités. Et imaginer un circuit fermé où elle stoppe l'eau n'est pas envisageable pour la prolifération notamment de maladies entre les truites. Donc voilà, elle est sur un moment où ça tient aujourd'hui. À 10 ans, ça tient aussi. Au-delà, elle ne sait pas trop quelle adaptation. Et elle fait face aussi à de plus en plus de prédateurs. Les cormorans sont en train de se rajouter au tableau avec les hérons et les loutres. Et donc, il y a aussi cet enjeu-là de partager la rivière aussi avec...
D'autres formes de vie que les humains.
Exactement.
Concernant plutôt la forme et les moyens que tu as utilisés pendant ta résidence, tu es journaliste en Aveyron depuis plus de 10 ans, je crois. Et j'imagine que tu avais déjà un carnet d'adresses, des contacts que tu as mobilisés pour aller à la rencontre des acteurs concernés.
Oui, alors on a quand même choisi avec Radio Larzac de structurer une réunion de lancement qui avait lieu le jour de la journée de l'eau, pardon, la journée internationale de l'eau le 22 mars. Et donc, ce lancement de résidence a permis de faire un appel au public, un appel aux acteurs mobilisés sur ce sujet pour se réunir, commencer à mettre des idées sur la table. Moi, c'est une matière qui m'a permis de commencer à défricher aussi ce sujet avec des acteurs engagés. Et puis après, petit à petit, et c'est souvent le cas, c'est un acteur qui renvoie vers un autre, c'est... le syndicat mixte qui travaille avec les pêcheurs, qui travaille avec les campings. Et donc, de l'un à l'autre, j'ai rebondi en mobilisant aussi mon réseau personnel, des gens que j'avais déjà croisés sur le territoire et que je savais engager sur ces sujets. Parce que, aussi, c'est un sujet qui est compliqué. Surtout quand on commence la période estivale, qu'il y a des enjeux économique chez certains acteurs, c'est pas facile de parler de ce sujet, ça peut prêter à polémique. S'il y a conflit d'usage, c'est qu'il y a aussi des tensions sous-jacentes entre certains acteurs. Et donc, parfois, de passer par le réseau personnel ou par des gens que j'avais déjà croisés, avec qui j'ai déjà noué des relations de confiance, ça permettait d'ouvrir certaines portes aussi.
Et je sais que tu as rencontré aussi des lycéens et lycéennes de la spécialité SVT du lycée Jean Vigo, et je propose qu'on les écoute.
Moi, je me suis demandé quelle était la source principale de l'eau potable dans la ville et comment est-ce que l'eau potable arrivait jusqu'à nos robinets. Et après, j'avais une autre question, moi. C'est s'il y avait des réserves pour les pompiers ou c'était l'eau courante qui... Enfin, comment ils géraient ça.
Comment l'eau est-elle traitée et comment on vérifie qu'elle est bien potable? Et après, il y avait une autre question, c'est après la filtration dans les stations d'épuration, où va l'eau qui est récoltée?
Du coup, nous, on s'est posé la question, au vu des bactéries qui sont de plus en plus présentes dans le Tarn, à cause du réchauffement climatique et du réchauffement de l'eau, est-ce que le Tarn sera-t-il toujours un lieu de baignade dans quelques années? Voilà, c'est notre question, notre première question.
Est-ce que le fait qu'il y ait du calcaire dans l'eau, en très grande quantité, ça altère sa qualité?
On se demandait, par exemple, avec toute l'agriculture environnante de Millau qui pollue, par exemple, les nappes phréatiques, est-ce que l'eau qu'on consomme, elle est vraiment potable et bonne pour nous? Voilà.
Nous, on s'est demandé pour l'activité touristique, du coup, s'il y avait plus du tout d'eau, est-ce que ça altérerait cette activité touristique sur Millau qui, quand même, est beaucoup centré sur l'eau, entre les baignades, les activités aquatiques comme le kayak, le canyoning, voilà. Et aussi par rapport aux piscines, par exemple, est-ce que du coup on ne pourrait plus approvisionner les piscines?
Quels sont les différents niveaux de restriction d'eau?
Est-ce que Millau est une ville très consommatrice en eau potable?
L'eau potable, on la boit, mais on l'utilise pour quoi d'autre? Vous y avez réfléchi?
Pour les chasses d'eau et les douches et tout ça.
Ouais.
Est-ce que les récupérateurs d'eau à Millau, ça pourrait être une solution efficace, justement, pour essayer d'être plus économe sur la consommation?
Moi, en parlant du coup de l'agriculture, est-ce qu'ils ne pourraient pas changer leur culture pour avoir des cultures moins consommatrices en eau, pour éviter de puiser plus d'eau qu'il en faut, changer, s'adapter au milieu.
Ok. Donc ici particulièrement, ou ça c'est une question qui peut s'élargir?
Ici oui, parce que peut-être qu'avant on était une région plus pluvieuse et que maintenant on devient plus une région aride, donc s'adapter, voilà.
Alors comment s'est passée la rencontre avec les lycéens?
Alors c'était un travail avec leur professeur de SVT. En fait, on a voulu les cueillir un peu sans trop les préparer pour partir de leurs questions. Quelles sont les questions qu'ils se posent quand on leur parle de l'eau en Sud-Aveyron? Parce que moi, ça me permet aussi de rester dans une série de podcasts qui doit être pédagogique. On se rend compte, et j'en parlais encore ce matin avec un interviewé, il me disait « Moi, je veux bien qu'on me fasse la leçon parce que je loue des canoës. » Mais les personnes qui souvent me pointent du doigt sont celles qui ne sont pas capables d'expliquer leur cycle de l'eau à elles. Et donc, donner la parole aux lycéens, c'était aussi pour moi une manière de me forcer à répondre aux questions les plus spontanées que pourraient se poser tous les Millavois en partant des plus jeunes qui sont majeurs dans l'année, là, puisque c'est des terminales. De leurs préoccupations de jeunes citoyens. Parce que le piège de ce sujet-là, ça peut être de partir vers des contenus extrêmement techniques. Et peut-être qu'on rate notre cible si on va tout de suite dans la technique sans repartir de la base, en fait. Et donc, c'est un exercice que j'ai demandé à certaines des interviewées. C'est très concrètement de me raconter la vie d'une goutte de pluie, la vie d'une goutte de notre robinet, comment elle vit, où est-ce qu'elle va, quel traitement elle traverse. Voilà, je pense que c'est peut-être une des leçons de la série au final, c'est qu'on ne prend soin et on ne protège que ce que l'on aime et que ce que l'on connaît et comprend. Et donc c'est en partant de cette connaissance et de cette compréhension locale, je crois qu'on peut amener le plus grand nombre à vouloir la protéger.
Et donc, ces questions, tu les as posées à tes interviewés ou tu vas essayer toi-même d'y répondre aussi?
Je pense que c'est dans leur réponse croisée que se dessine la réponse collective, en tout cas. J'aimerais bien, autant que possible, m'effacer, moi, dans le sens où j'ai pas vocation à commenter ce que m'ont dit les interviewés, mais plutôt dans l'articulation entre leur point de vue, à la fois dessiner des pistes de solutions, mais surtout comprendre que, en fait, tous ces acteurs-là ont plutôt intérêt à protéger la ressource qu'ils ont en commun. Il y en a pas un qui se lève le matin en disant qu'il va faire du mal au milieu. Donc, comment on concilie et comment on s'écoute pour comprendre les enjeux des uns des autres dans une optique de dérèglement et de raréfaction de la ressource.
Donc, tu en as commencé à parler. Les prochaines étapes, tu disais, ça va être donc d'articuler tout ça dans des épisodes.
Mmh. Ouais, alors il y a un cahier des charges de 4 épisodes de 20 minutes. J'ai commencé à négocier 30 minutes pour que... voilà, dans une série de 4 épisodes, on puisse percevoir d'abord l'état des lieux, en fait. Je pense que les 4 premiers épisodes serviront à ça. Et puis, il y aura ce moment de restitution à la rentrée où on regroupe tous les acteurs interviewés, où on ouvre au public. Et la captation de cette restitution table ronde aura plutôt pour objet de réfléchir à la suite et de faire de la prospection pour la suite. Mais je pense que... Moi, déjà, si j'arrive dans les 4 premiers épisodes à faire un état des lieux, ce sera déjà beaucoup.
Alors, tu nous en as un peu parlé au début, mais pour conclure, quel bilan tu fais de ce travail ?
C'est vraiment dur de faire un bilan à chaud et en étant encore dedans.
Est-ce que ça t'a donné des idées pour la suite, par exemple pour d'autres articles ou d'autres travaux ?
Oui. Ben, je suis en train de penser à ça et là, de proposer des piges pour la presse écrite, pour donner suite justement à toutes ces interviews, à toutes les ramifications que j'ai pu observer. Hier, quand j'ai reçu cette alerte du Haut Commissariat au Plan, qui explique vraiment l'urgence et qui pointe aussi du doigt le bassin Adour-Garonne comme étant le plus sérieux à surveiller dans les prochaines années, le plus exposé à tous les risques. Je me dis que cette résidence, elle est vraiment arrivée au bon moment et j'espère que voilà, la matière que je vais pouvoir partager d'abord dans les podcasts et puis dans les articles qui suivront serviront de base pédagogique aussi et peut-être de base pour les élus, pour les décisionnaires à des moments aussi de se rendre compte que les compétences, les motivations, on les a sur le territoire, mais comment eux peuvent se placer en animateur de tous ces enjeux. Je pense notamment à un sujet, là, peut-être celui que je trouve assez révélateur, qui est d'installer des toilettes sèches sur les aires d'autoroute. En fait, ça peut prêter à rigoler, ça a l'air léger comme sujet, mais on part vraiment d'un conflit d'usage du territoire entre une aire d'autoroute qui, pendant les week-ends d'été de chassés croisés, n'est utilisée que pour tirer la chasse d'eau, et à côté des agriculteurs qui n'ont plus d'eau à ces moments-là, qui sont aussi les moments de grosse chaleur sur les exploitations. Donc en fait, en partant de ce conflit d'usage-là, très précis, on se rend compte que les collectivités peuvent avoir un pouvoir décisionnaire d'installer des toilettes sèches sur le territoire, être exemplaires. Et en fait, comment de ce conflit d'usage-là, on fait naître déjà, on regroupe les acteurs autour d'une table pour trouver des solutions et on se rend compte que les toilettes sèches, ça fait partie des solutions activables assez rapidement par les pouvoirs publics, par exemple, dans les lieux publics, dans les établissements accueillants du public. Donc voilà, j'espère que de réunir toute cette matière pourra donner des idées, mais pas qu'à moi, sur le territoire.
Merci beaucoup Lola, encore une fois.
Merci.
Merci pour ton temps, pour être venu travailler à la radio. On t'a croisé, tu es venu travailler ici pendant 6 semaines, donc entre mars et juin 2025. Je rappelle que tu es journaliste indépendante et que tu as travaillé autour des enjeux de l'eau. C'était un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre de l'appel à projet journaliste en résidence. Les émissions que tu réalises en ce moment seront à retrouver bientôt sur les ondes de Radio Larzac et aussi en podcast sur notre site radiolarzac.org. On se retrouve à la rentrée pour une table ronde de restitution. Et sur notre site, vous pouvez également réécouter cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.
Emmène-moi dans les gorges du Tarn. 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 J'ai la bougeotte. J'ai la bougeotte. J'ai la bougeotte. Emmène-moi dans les gorges du Tarn. 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 Emmène-moi dans les